Oui, c'est gentil. Avant de faire quoi que ce soit, s'il vient de... Ben c'est... Mike, tu enregistres? En fait, c'est... Il faut qu'on le fasse. Qu'on soit sérieux avec ça. Mais la semaine dernière, on a parlé de la Trinité. Et en fait, la Trinité, c'est un grand mystère. Et nous ne pouvons pas expliquer comment trois personnes sont un Dieu, une unité. Mais c'est un enseignement très clair de la parole de Dieu. Même pour ceux qui ne veulent pas le voir, eh bien, il y a cet enseignement. C'est même dans l'archéologie, si on a retrouvé des stèles. Ce sont des pierres hein, avec des inscriptions. Et au-dessus, tout à fait en haut de la pierre, il y a trois représentations de trois autels, par exemple. Et c'est. Alors, il y a comment dire, un symbole qui va avec chacun. Et un en particulier, c'est un bélier. En général, c'est le deuxième. Et c'est très, très, très curieux parce qu'il y a cette notion de la Trinité et le Dieu que l'on ne représente pas. Le Dieu qui existe, que l'on ne représente pas. Et qui a trois, comment dire, qui s'est révélé. Il y a trois personnes. Voilà. Donc, aussi bien, alors en bas de la stèle, hein, il y a une marque, et en dessous, alors il y a tous les dieux, il y a tous les hein, le panthéon que vous voulez, mais. Alors là, ils sont représentés, mais au-dessus, ce n'est pas représenté. Et il y en a trois. Alors, c'est très très curieux. Ce sont surtout les stèles sumériennes et assyriennes qu'on retrouve ce genre de choses. Pas égyptien. C'est pas le... Bon, alors, je vous passe l'information comme cela. Donc, mais c'est un mystère. C'est cette la Trinité. Nous ne pouvons pas l'expliquer. On ne va jusqu'à un certain point. On peut parler et dire certaines choses sur la Trinité, mais en fait, on ne peut pas aller très 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 loin parce que nous sommes des humains et on ne peut pas expliquer Dieu. C'est ceux qui prétendent expliquer Dieu et approfondir complètement la théologie, d'abord ce sont des orgueilleux et ensuite ils ne n'ont pas mesuré la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Notre Dieu est bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons expliquer. Donc la Trinité est un mystère. On peut donner des explications, mais on ne peut pas aller très 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 loin. C'est par exemple le Seigneur Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas donné d'explication, hein, mais il a affirmé un fait. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà. C'est une autre chose qui est dite, et pour moi, c'est la meilleure explication que je puisse donner. C'est par exemple le couple. Le Seigneur, notre Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, une unité. Alors il reste toujours deux, mais ils sont un. C'est une unité. C'est donc très très important parce que on peut donner une explication. Voilà, ce sont des choses qui. Mais nous parlons. Alors j'ai dit, hein, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est bon de le répéter. Quand vous avez Dieu, de temps en temps, c'est le Père, mais parfois, eh bien, c'est Dieu, c'est la Trinité. Hein, donc le mot Dieu, parfois, eh bien, c'est... Par exemple, le Seigneur Jésus dit, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc nous avons parfois, eh bien, des interrogations. On peut se... La Bible n'est pas un livre de lecture comme on lit un roman. Mais on lit la Bible avec attention, avec persévérance, avec le désir d'apprendre, et on demande au Saint-Esprit de nous éclairer sur la lecture de la Bible. Et il y a des mots et des expressions et des noms, eh bien, qui prennent leur juste place à ce moment-là. Et on dit, ah, mais là, quand il est question de Dieu ici, il est question du Père. Mais par exemple, et là nous passons au point suivant, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il y a des personnes, quand ils ont vu l'ange de l'Éternel, ils ont dit, nous avons vu Dieu. Et l'ange de l'Éternel, c'est le Fils. Dans l'Ancien Testament, vous avez des multitudes de passages qui nous parlent de cet ange de l'Éternel qui se présente au milieu des hommes et qui parle de la part de Dieu et qui est appelé Dieu. Nous avons vu Dieu. Et il dit qu'il apporte un message de Dieu. Alors c'est le mystère continue, bien évidemment, parce qu'il s'agit de Dieu. Alors, c'est une chose que j'aimerais bien expliquer, c'est que quand il est question d'ange, nous avons le mot ange a une valeur théologique. Mais le mot ange n'a pas forcément une valeur théologique. C'est-à-dire que nous pensons à un ange, c'est-à-dire hein, une manifestation spirituel avec des ailes et qui hein, voyage plus vite que la pensée, etc. Bon, ça c'est. Il y a des anges qui sont apparus à peu près comme ça dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas forcément ce mot ange. C'est le mot ange. C'est quand il s'agit de l'ange de l'Éternel, c'est le messager. Il faut traduire le mot. Parfois, le mot n'est pas traduit et c'est une erreur. Parce que là, ce n'est pas un ange, parce que un ange, c'est un être bien spécial, mais c'est le messager du Père. Donc, comme on n'a pas traduit le mot, aussi bien en hébreu qu'en grec, le mot ange veut dire messager. Bon, ce ange, ça vient du grec, hein, mais pour l'hébreu, c'est un autre mot. Mais ça veut toujours dire messager. Alors, on ne traduit pas, quand on rencontre ce mot, en général, on ne traduit pas. Selon le contexte, on ne traduit pas. Mais là, il faudrait le traduire, parce que c'est le messager de l'Éternel. Ce n'est pas un ange, justement. C'est le messager. Vous voyez la nuance? Le fait que l'on n'ait pas traduit le mot ange jette une confusion et les gens disent mais ce n'est qu'un ange. Non, ce n'est pas un ange, c'est le messager. Parce que le mot ange veut dire messager. Donc, quand on lit en hébreu ou en grec, on dit le messager de l'Éternel. Mais nous, dans notre traduction, comme le mot n'est pas traduit, eh bien, on a le mot ange. Et qui jette une confusion dans la manière d'interpréter. Donc, en fait, le Seigneur Jésus, dans l'Ancien Testament, s'appelle le messager de l'Éternel. C'est celui qui apporte le message. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il est la parole. Et quand Jean souligne le fait, il dit la parole est venue au milieu des hommes. C'est exactement une sorte de clin d'œil à l'Ancien Testament où il y avait le messager, la parole de l'Éternel, celui qui apportait la parole. Et il est venu comme c'est l'ange de l'Éternel qui est venu sous une forme humaine, incarnée. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu est venu au milieu des hommes et s'est incarné. Il est devenu homme, un vrai homme, complètement homme, entièrement homme. Dans l'Épître aux Hébreux, il est pu dire, il a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Tenté en toute chose. Il faut être un être humain pour être tenté. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, eh bien, c'était l'ange de l'Éternel qui est venu au milieu des hommes. Comme dans le passé, il venait au milieu des hommes parler de la part du Père, parce que l'Éternel, hein, ici c'est le Père, il venait de la part du Père pour nous parler, eh bien, dans le Nouveau Testament, il est venu de la même manière, de la part du Père, mais il s'est incarné. Alors, quand il est venu au milieu des hommes dans l'Ancien Testament, il avait une forme visible, parce que Dieu est invisible, il est esprit, c'est la matière qui est visible. Il est venu d'une manière visible. Et alors, à plusieurs reprises, vous trouvez, par exemple, Abraham a pu parler avec quelqu'un. Et là, il n'est pas question d'un ange, hein. Il y a trois personnes qui sont venues. Il y a deux anges et l'ange de l'Éternel. Mais là, il a négocié Sodome et Gomorre. Parce que on voit cette négociation, et puis finalement, ben, il n'y avait pas cinq justes. Mais c'est Dieu. Et il avait conscience de parler avec Dieu. Donc, quand il y a des passages où les gens ont vu, et puis par exemple, vous avez Manoac et sa femme. Et oui, ils ont dit l'homme que nous avions vu. Il est venu sous une forme corporelle humaine. Mais pas sous une forme un ange rempli de lumière avec des ailes qui battent, etc. C'était pas ça. Vous avez ces manifestations dans l'Ancien Testament du Seigneur Jésus-Christ, qui s'appelle l'ange de l'Éternel. C'est très important de voir que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé une existence et un ministère sur cette terre avec les évangiles, mais il est venu sur la terre bien avant. Et bien avant, il a parlé aux êtres humains. Il a expliqué des choses. Il a montré le bon chemin, il a parlé de la part du Père. Et même dans l'Épître aux Hébreux, tout à fait au début, chapitre 1, eh bien, il nous est dit que c'est lui qui a créé toute chose. Le monde a été créé par lui. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc vous voyez toujours le Seigneur Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel. C'est toujours la parole. C'est lui qui a prononcé les paroles qui ont créé le monde. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et a été, et est, et continue d'être, et continuera d'être, jusqu'à ce que Dieu retire sa parole, parce que sa parole a une force de loi. Quand Dieu parle, la chose existe. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé, eh bien, tout a été créé. Et il est, dès le début, la parole, parce que c'est lui qui crée le monde par sa parole. Ensuite, il parle aux hommes de la part du Père. Il était l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Quand il est venu au milieu des hommes, eh bien, Jean dit, c'est la parole qui est venue parce qu'il a parlé. Il y a un message qu'il a apporté de la part du Père aux hommes. Et il a parlé du royaume de Dieu, il a parlé de beaucoup de choses très importantes que nous retrouvons dans les évangiles. Et même quand nous avons des réunions, hein, maintenant nous sommes dans la période de l'Église, c'est après la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection et son ascension, la venue du Saint-Esprit, et nous avons le ministère de la parole. Et toujours, nous sommes sauvés par la folie de la prédication de la croix. Il y a toujours, vous voyez toujours la parole. La parole est liée à Christ, parce qu'il est la parole de Dieu. Il est le messager du Père. Et le message que nous apportons, c'est le message de la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. C'est donc très très important. Alors bon. le Fils, donc, est ce que l'on appelle la deuxième personne de la Trinité. Et deuxième personne, ça ne veut pas dire qu'il est deuxième dans le sens de valeur. Nous, on dit, il y a le premier, hein, par exemple, le premier de la classe, le deuxième, bon, mais il est moins bon. Et le troisième, il est encore moins bon que le premier. Ah, c'est comme ça. Mais dans ce monde, mais du point de vue divin, ce n'est pas vrai. C'est le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est appelé le Fils parce qu'il est soumis au Père, entièrement soumis à son Père. C'est quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de tout pour venir au milieu des hommes. C'est dans Philippiens au chapitre 2, et à partir du verset 11. On ne va pas le lire, mais il est décrit tout ce qu'il a quitté, toute la gloire céleste. Il est descendu au milieu des hommes. Il s'est dépouillé, il a perdu. Du point de vue de Dieu, il a perdu, mais il a gagné. C'est. Excusez-moi. C'est le problème de Satan. Lui veut toujours gagner. Il veut rien perdre. Il a toujours voulu avoir plus, 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 plus. Il a voulu même mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Le Fils, qui est Dieu, eh bien, s'est humilié lui-même. Il est descendu jusqu'au milieu des hommes. Il a perdu. Il est descendu. Il a accepté d'être le messager du Père. Il a accepté d'être soumis à son Père. Il a dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi, ce sont les paroles que le Père m'a dit de dire. C'est même Philippe est venu le voir et lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il a dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est la manifestation du Père. Si bien que ce que l'on a le moins vu dans le ministère de Christ, c'est Christ lui-même. On voyait plutôt le Père et l'œuvre du Père. Et ça, c'est son humilité. Vous voyez comment dans ce monde, et qui est gouverné par Satan, combien les gens veulent être les premiers, combien ils veulent dominer, combien ils font tout. Ils s'entretuent pour être les premiers et pour avoir une heure de gloire, une heure. C'est rien du tout. Je me rappelle un président bien connu, je ne citerai pas le nom, venait d'être élu et il a appris qu'il avait un cancer. Mais la semaine même où il a été élu, il a appris qu'il avait un cancer. Il a dit, alors je suis foutu. C'est. Voilà, il possédait, il avait, hein, ce pouvoir qu'il avait. Il avait vu un jour un tableau, la photo d'un homme dans une épicerie, parce qu'à une époque, il fallait avoir la photo, sinon on était mal vu. Et il a dit, ma photo, elle sera là, dans quelque temps. Il avait voulu, toute sa vie, il a voulu. Et il a eu, il avait le cancer. Et il a vécu le reste de ses présidences avec les traitements, le cancer, etc. Toutes ces choses-là qui le perturbaient terriblement. Il se savait condamné. Que son règne était limité. Un instant, hop, et il partait. Mais il lui fallait absolument, hein. Il n'a pas dit, bon, ben, j'ai le cancer, je vais m'occuper de ma famille et de mes enfants et faire. Non, 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 le pouvoir, il a voulu l'assumer jusqu'au bout et tant qu'il a pu, hein. Mais c'est ce monde, c'est l'esprit de ce monde. Satan veut gouverner, veut dominer, veut être le premier, alors que le Fils, lui, est descendu. Il s'est humilié lui-même. Et les disciples de Christ sont des personnes qui s'humilient et qui descendent. Si vous avez quelqu'un qui veut être le premier dans une église, ce n'est pas l'esprit de Christ qui l'anime. C'est l'esprit de l'ennemi de Christ. On ne cherche pas à être les premiers. Si quelqu'un cherche à être le premier, Il a un mauvais esprit. C'est quelque chose qui... Il est tenté d'aller dans une mauvaise direction. On est toujours... Et même Paul disait, soumettez-vous les uns et les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est parce que nous ressemblons à celui qui était comme un agneau immolé. Et nous acceptons exactement de prendre le même chemin que lui. Nous sommes disciples de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être en Christ, de vivre en Christ et avec l'esprit de Christ. C'est très important de savoir de connaître la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, eh bien, c'est exactement notre vie. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous ne pouvons pas être autrement. Ce qu'il a fait, ce qu'il a été, nous devons l'être. Exactement de la même manière. Il a renoncé à lui-même. Il est descendu. Il a accepté de pour nous sauver, d'aller jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais, quand il est entré dans le ciel, après avoir offert sa vie, il est entré glorieux. Il avait triomphé, triomphé de Satan, triomphé de ce monde, triomphé du péché. Il a triomphé même de la mort. Il est le grand vainqueur, parce qu'il s'est humilié lui-même. Le chemin de la gloire passe par l'humilité. C'est le chemin de Christ. Et ça, c'est très, très important. C'est pour cela que nous devons, quand vous lisez les évangiles, cherchez le caractère de Christ. Parce que le caractère de Christ, c'est le caractère que Dieu veut pour vous. C'est la volonté de Dieu pour vous. Je me rappelle avoir fait une recherche dans l'évangile de Jean. Et j'avais cherché, par exemple, l'humilité. Je me suis dit, tu vas lire beaucoup de passages, mais tu vas trouver quelques versets. Et puis, j'ai commencé, mais j'en ai trouvé, mais il y en a au moins une trentaine dans l'évangile de Jean. C'est fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment il y a tant de passages qui nous montrent l'humilité de Christ. Mais elle y est. Et vous prenez d'autres passages, d'autres caractères de Christ, et vous les recherchez, et Dieu veut que vous soyez cela. C'est tel il est, tel nous sommes. Mais il y a un chemin de l'humiliation. C'est le chemin de Christ. Mais il y a un chemin, ce chemin de l'humiliation nous amène un jour dans la présence de Dieu, et on est reçu avec gloire. Parce que nous avons marché dans le même chemin que Christ. J'ai fait une application à nous-mêmes, parce que c'est important de faire des applications. Je conçois la doctrine que par rapport à ce qu'elle peut nous enseigner, non pas intellectuellement, mais motiver notre vie, et comment nous pouvons être différents et changer et aller plus loin. Mais c'est beaucoup plus que le Seigneur Jésus-Christ, c'est beaucoup plus qu'une connaissance. C'est beaucoup plus que d'avoir une connaissance de Dieu et de la doctrine. On connaît la personne. On sait exactement qui il est et ce qu'il fait et comment il le fait. Et c'est merveilleux, vous savez, de pouvoir sonder les Écritures pour connaître Christ et aller plus loin avec lui. C'est pas seulement comme je vous l'ai dit, une doctrine. C'est beaucoup plus que cela. Nous avons fait des doctrines. C'est-à-dire que la connaissance et l'intelligence humaine se donnent une bonne, comment dire, une bonne perspective, une bonne carrière. On va faire de la théologie. Mais théologie, souvent, ça rime avec orgueil. Et beaucoup de gens sont des théologiens. Ils expliquent Dieu. Ils expliquent. Mais Dieu ne nous demande pas d'expliquer, de tout expliquer, d'avoir une explication à tout. Et il n'y a pas une explication à tout. Nous sommes limités dans la connaissance. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de vivre ce que nous savons. C'est pas de tout expliquer. Si nous expliquons, nous allons expliquer et donner une définition sur Dieu. Allez, y a une définition. C'est la grande. C'est pour ça que certain Anselme de Cantorbéry est devenu saint, parce qu'il a donné une explication. Mais le problème, c'est que on ne définit pas Dieu. On a donné une explication qui est une sorte de définition. Mais dites-vous bien que c'est très, 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 très loin de la vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, philosophique, mais c'est une connaissance spirituelle, beaucoup plus grande et beaucoup plus merveilleuse que ce que l'on peut imaginer. Donc le Seigneur Jésus-Christ, le Fils, existe de toute éternité, toute éternité. Il n'y a pas un commencement parce qu'il est Dieu. Il a toujours été Dieu. Il le sera toujours. Il est éternel. C'est au siècle des siècles. C'est tout genou un jour fléchira devant lui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira. Pas un genou restera orgueilleusement tendu. Les gens seront obligés de fléchir le genou devant Dieu, devant le Dieu vivant, dans la personne de Jésus-Christ, parce que il a vaincu. Son œuvre à la croix est une œuvre qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il a vaincu bien plus que vous pouvez penser. Il nous a ouvert des portes que vous ne pouvez pas imaginer. Il a fait des choses pour nous qui dépassent tout ce que l'homme peut penser. C'est que tous les théologiens de ce monde, on pourrait remplir des bibliothèques entières, et même, nous ne savons même pas tout ce qu'il nous a acquis, tout ce qu'il a fait pour nous, par son œuvre sur la croix. C'est très important de sonder la parole de Dieu, sonder les enseignements qui sont sur la personne de Jésus-Christ pour grandir et pour aller plus loin. Ne faites pas de la théologie pour de la théologie, mais cherchez toujours la vérité, la vie, ce qui est vivant. Alors ça ne veut pas dire, je ne condamne pas la théologie, hein, loin de là. Ce que je condamne, c'est un esprit, l'esprit dans lequel on fait une certaine théologie. Là oui, là je peux dire, ça c'est mauvais. Parce qu'il y a des personnes qui font de la théologie simplement. C'est une étude, c'est une spéculation. Voilà, c'est de la philosophie, pas plus. Mais nous voulons faire autre chose, nous voulons aller beaucoup plus loin.